La crise, ou plutôt les crises de la société capitaliste, continuent de s'aggraver. Dans les pays comme la France, la pauvreté s'accroît, l'espérance de vie diminue, la mortalité périnatale progresse. Au XXIe siècle, l'immense majorité de la population de la planète survit entre misère et famine au milieu des conflits armés ininterrompus. Et depuis le début de l'année, la guerre en Ukraine, commencée voici 8 ans, a pris une nouvelle dimension avec l'invasion par la Russie. Les conséquences de la guerre en Ukraine viennent s'ajouter à celles de la crise économique mondiale. Avec des gouvernements mobilisés pour faire payer aux seules classes populaires les conséquences de la crise et de la guerre en Ukraine. Cette politique n'est certes pas nouvelle. Dans tous les pays, c'est la tâche assignée par la bourgeoisie et tous les gouvernements, à savoir rejeter tout le poids des sacrifices sur les travailleurs pour que les profits d'une poignée de parasites richissimes soient préservés. Nous prenons de plein fouet la hausse des prix. Le monde capitaliste connaissait une inflation croissante avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais cette inflation s'est accélérée spectaculairement ces derniers mois. Gaz, électricité, alimentation, essence, tout monte en flèche. Et ce ne sont pas les boucliers tarifaires du gouvernement qui peuvent protéger notre pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat déjà sérieusement rogné depuis des années. Pour vivre correctement, aucun salaire ne devrait être inférieur à 2000 euros. Pour la grande majorité des travailleurs, c'est une augmentation de 300 à 500 euros qui est vitale pour faire face à la hausse des prix. Plusieurs grèves et débrayages ont lieu en ce moment, à Carrefour, PSA Peugeot, Total Energy, comme ce fut le cas en début d'année, à Michelin où je travaille. Le patronat, le gouvernement se refuse à augmenter substantiellement les salaires en prétextant que les augmentations de salaires entraîneraient la hausse des prix. Voilà des années que les salaires sont bloqués. Ils seraient la cause de la hausse des prix? Allons donc. Et ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des 2 ou 3% d'augmentation générale proposées par le patronat. Ce ne sont pas non plus des primes dont nous avons besoin. Il nous faut imposer que les salaires se maintiennent au niveau du coût de la vie, en particulier de ce qui est de première nécessité, loyer, alimentation, carburant. C'est pourquoi nous devons exiger que les salaires soient indexés automatiquement sur les prix, sous contrôle des travailleurs dans les entreprises, sous contrôle des consommateurs dans les supermarchés. Nos conditions de vie sont attaquées de tous côtés. Conditionner le versement du RSA à l'exécution d'un certain nombre d'heures de travail n'est qu'une manière déguisée de sous-payer ceux d'entre nous qui sont déjà en galère. La loi contre les émigrés, préparée par Darmanin, elle rendra encore plus difficile la vie et les conditions de travail de nos camarades originaires d'autres pays. La réforme des indemnités chômage, également en préparation alors que la précédente de l'année dernière a déjà sérieusement raboté les maigres indemnités chômage et instituer des critères plus draconiens pour pouvoir les toucher. La nouvelle réforme créerait des indemnités au montant variable en fonction du niveau de l'emploi, alors qu'on est déjà radié de Pôle emploi pour un oui, pour un non, ce sera, soyons-en sûrs, un cran de plus à la ceinture. Et puis, il y a la réforme des retraites. Suspendue un temps pour cause de pandémie. Elle a survécu au Covid. Mais les raisons invoquées par le gouvernement ont changé. Édouard Philippe expliquait qu'elles rendaient le système plus juste et bénéficieraient aux plus démunis. Aujourd'hui, le gouvernement met sur pied une nouvelle mouture. Cette fois, pour combler le déficit de l'État qu'il a creusé en arrosant le patronat d'aides en tout genre. L'objectif, par contre, en ce qui nous concerne, nous travailleurs, n'a pas changé, à savoir augmenter le nombre d'années de cotisation et repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, voire plus. On nous dit que la pénibilité sera prise en compte, mais partout, les conditions de travail non seulement sont pénibles, mais carrément insupportables. Le ras-le-bol des conditions de travail et l'espoir d'en finir au plus vite dans les ateliers, les services, les bureaux, avec leur chef sur le dos, est bien le sentiment le mieux partagé dans l'ensemble du monde du travail. Qu'on veuille nous imposer cette nouvelle réforme des retraites par le 49-3 ou par un soi-disant dialogue social, il dépendra de nous et de nous seuls de nous y opposer le plus fortement possible. Mais pour arracher au patronat de véritables augmentations de salaire, comme pour faire barrage à la réforme des retraites, nous ne pourrons pas nous contenter d'une ou deux journées d'action sans lendemain, ni nous en remettre aux négociations réclamées par les chefs syndicaux, ni non plus nous en remettre à des députés, comme ceux de l'ANUPS, dont les protestations ne seront que des gesticulations d'impuissance. La force, ce sont les travailleurs qui en disposent. Par notre nombre, et surtout parce que nous faisons tout fonctionner dans cette société, si nous sommes suffisamment déterminés, nous pouvons bloquer les rouages de la machine à profit. Oui, c'est au cœur du système, c'est à cette course au profit, seul moteur du monde capitaliste, qu'il faut s'attaquer. Nous seuls, nous pouvons nous protéger des attaques patronales et gouvernementales. Seule une explosion sociale nous donnera la possibilité de défendre efficacement nos intérêts de travailleurs. On nous annonce un hiver de restrictions sur l'électricité, sur le gaz. Des coupures ne sont pas exclues. Et si cela venait à se produire, ce serait, nous dit-on, notre faute. Notre faute de ne pas avoir eu un comportement responsable dans l'intérêt collectif. Les entendre discourir à longueur d'antenne de sens des responsabilités et d'intérêt collectif est tout simplement révoltant. De quel sens des responsabilités font-ils preuve alors que tous les services publics sont en crise? Des services entiers fermés, une pénurie de personnel soignant ou non. Les hôpitaux sont en situation d'urgence permanente. Dans les écoles, les collèges et les lycées, ils en sont à recruter à Pôle emploi des professeurs formés en 3 jours. Les élèves seront des cobayes, mais le nouveau ministre de l'Éducation trouve la situation satisfaisante. À la Poste, à la SNCF, on pourrait citer les mêmes carences catastrophiques. Leur société est gangrénée des pieds à la tête, alors que les connaissances scientifiques, les moyens techniques et technologiques existent. Ils ne savent réagir qu'au coup par coup, et le plus souvent après coup, c'est-à-dire trop tard. Face à la crise économique et au risque d'une récession qui peut-être est déjà en cours, les gouvernements sont sans solution. Ils subissent les lois de l'économie où les capitalistes profitent, spéculent et ont tout seul le pouvoir de décider. Compte des règlements climatiques, toutes les déclarations restent lettres mortes. Pire, il rouvre des centrales à charbon et développe des forages pour extraire le gaz de schiste. Il faudra faire preuve de beaucoup de naïveté pour croire que les grands groupes capitalistes et leurs gouvernements soient prêts à lutter contre la pollution alors qu'ils en sont les principaux responsables. Gouvernements et capitalistes n'ont pas les yeux fixés sur le niveau du réchauffement de la planète, mais uniquement sur le thermomètre indiquant la hauteur de leurs profits. La crise climatique, comme les autres crises du système capitaliste, ne pourra être réglée que dans une société où les hommes organiseront leur vie sur la base d'une économie rationnelle et planifiée, en fonction de leurs besoins, et non d'une recherche incessante et effrénée du profit. La société capitaliste ne peut conduire la planète et l'humanité qui l'habite qu'à la catastrophe. Une économie où l'on produit sans savoir si la production se vendra, ni si elle correspond à un besoin humain réel, n'est pas viable. Elle est aveugle sur l'avenir. Les trusts du monde entier se livrent une concurrence impitoyable. Les rivalités entre États, chacun étant garant des intérêts de sa bourgeoisie nationale, se transforment en tensions de plus en plus fortes. Cette guerre économique s'étend sur tous les terrains. Les bourses, les monnaies réelles ou virtuelles. La spéculation financière dévore littéralement l'économie et plonge toujours davantage la société dans la crise. En une telle période de crise, il est inévitable que la guerre économique se transforme en guerre tout court et fasse planer la menace de se transformer en conflagration générale. La guerre en Ukraine en est peut-être les prémices. Car au-delà de la conquête ou non du Donbass, au-delà même de la question de la souveraineté de l'Ukraine, il apparaît de plus en plus clairement que le conflit se situe à une échelle plus vaste, avec d'un côté les puissances occidentales rangées derrière les États-Unis et de l'autre côté la Russie. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la course aux armements a été relancée par tous les États. On fabrique et on accumule toujours plus de stocks d'armes. Et le passé nous montre ce sur quoi cela peut déboucher. Alors, ne nous laissons pas aveugler par la propagande gouvernementale et médiatique qui salue le combat des Ukrainiens à longueur de journée, mais se moque en réalité totalement du droit des peuples, celui d'Ukraine, comme celui du Yémen, comme des droits palestiniens ou des Iraniens. Du haut de la tribune de l'ONU dénonçait les pays ne soutenant pas l'Ukraine et se faisait photographier le lendemain même serrant la main du président iranien. Le dirigeant d'un régime sanguinaire contre lequel des dizaines de milliers de manifestants tant crient leur rage après l'assassinat d'une jeune fille par la police des mœurs pour une mèche de cheveux. Depuis, le nombre de morts ne fait que s'allonger, dont celle d'une jeune fille de 20 ans, tuée par 6 tirs à bout portant. Les dirigeants de ce monde ont des indignations à géométrie très variable. Lorsque la Russie a violemment réprimé la révolte populaire au Kazakhstan en début d'année, ni Biden, ni Macron n'ont eu un mot contre Poutine. Le droit des peuples, ce sont les peuples eux-mêmes qui pourront l'imposer, à condition de ne pas enchaîner leur combat à celui de dirigeants nationalistes bourgeois ou à ceux d'un autocrate. Cela vaut pour le peuple ukrainien comme pour le peuple russe, les seuls qui ont intérêt à l'arrêt de la guerre. En Iran, nous ne savons pas si la révolte populaire réussira à jeter à bas le régime des ayatollahs. Nous l'espérons. Et saluons le combat de toutes ces femmes et hommes qui chaque jour descendent dans la rue pour crier qu'ils veulent vivre libre, libre de s'habiller comme ils le souhaitent, libre de penser. La crise économique s'accélère rapidement. L'industrie en France, par exemple, ne fonctionne qu'à environ 40% de ses capacités. Ces dernières semaines, plusieurs usines ont annoncé leur fermeture pour 3 ou 6 mois. Mais les bénéfices continuent d'exploser. Les capitalistes vendent moins, mais plus cher. Et surtout, surexploitent la classe ouvrière, ce qui leur permet de dégager des surprofits dont tout le monde parle. À cela, la bourgeoisie n'est pas prête à renoncer. Pressurer toujours davantage le monde du travail est sa seule règle. Ce ne sont pas les invitations adressées bien poliment par le ministre de l'économie Le Maire aux industriels d'apporter leur contribution de solidarité qui feront changer le MEDEF de position. Pas plus d'ailleurs que la demande de taxer les surprofits qui sert surtout à Mélenchon et au parti de l'ANUPS à faire croire qu'ils agissent et servent à quelque chose. Amendements, pétitions, tout cela peut tout au plus servir à détourner l'attention du véritable terrain où se joue le rapport de force avec le patronat. Les partis électoralistes prétendent qu'il suffit de bien voter pour changer notre sort. Eh bien non, c'est sur le terrain de la lutte de classe que les travailleurs peuvent donner un coup d'arrêt à la surexploitation dont ils sont victimes. Et plus généralement, c'est sur le terrain de la lutte de classe qu'ils peuvent en finir avec le pouvoir de la bourgeoisie, sinon tout ce qui est gagné un jour peut être repris le lendemain. En période de recul politique du mouvement ouvrier, cette conscience de la nécessité de renverser le pouvoir de la bourgeoisie est minoritaire dans la classe ouvrière. Bien sûr, la lutte quotidienne pour les augmentations de salaire contre les licenciements reste nécessaire. Et nous espérons que les grèves qui éclatent régulièrement se fonderont en un moment donné, en un mouvement de grande ampleur à hauteur de mai-juin 36 et mai 68. Le mouvement ouvrier aura besoin au cours de mouvements d'une telle ampleur d'avoir conscience de ses intérêts politiques. Militants communistes révolutionnaires, nous sommes profondément convaincus que seule la classe ouvrière peut offrir un avenir à la société. Elle est la seule classe, sans lien avec la propriété privée des moyens de production, à pouvoir instaurer leur propre propriété collective et en assurer la planification pour la satisfaction des besoins humains. Nous avons la conviction que la classe ouvrière saura, au travers de ces combats, acquérir sa conscience politique de devoir arracher le pouvoir à la bourgeoisie pour en finir une fois pour toutes avec l'exploitation de l'homme par l'homme. L'existence d'un parti ouvrier communiste révolutionnaire sera vitale tant pour affronter les coups des exploiteurs que pour déjouer les mauvais coups de ceux qui se présentent comme des amis des travailleurs. Le rôle d'un parti communiste révolutionnaire ne sera pas de se substituer aux formes d'organisation créées par les travailleurs eux-mêmes dans le cours de leur lutte. Son rôle sera de défendre une politique permettant aux travailleurs de ne pas être dépossédés du contrôle de leur lutte et d'orienter son combat sans jamais perdre de vue l'objectif d'en finir avec le pouvoir de la bourgeoisie. Il manque un parti révolutionnaire communiste à la classe ouvrière pour surmonter le recul actuel du mouvement ouvrier. La tâche primordiale est de construire ce parti. Nous avons tous, camarades, un rôle à jouer dans cette construction, en défendant l'idée que c'est par la lutte de classe que les travailleurs peuvent défendre leurs intérêts et faire naître une société sans oppression et sans exploitation. Le communisme est l'avenir de l'humanité, il est le seul digne de l'humanité.
Faisons table rase.